Je dois vous dire au départ que j'aime cette estrade. Je trouvais ça trop haut, là. J'ai le vertige. Bien, nous sommes rendus dans une série, à l'intérieur de la série, un pasteur et son ministère, à l'intérieur de Sans reproche à son retour. Et la prédication d'aujourd'hui est vraiment le cœur de cette mini-série-là. Et Robert Frost a écrit un jour dans son poème « Le mur reconstruit » que les bonnes clôtures font les bons voisins. Ça peut être vrai, mais les clôtures sont aussi des barrières qui nous empêchent d'être avec des bons voisins. Les clôtures ne sont pas toujours faites de bois et de clous. Elles se composent aussi de mauvaises attitudes. Peu importe de quoi est faite la clôture, un chrétien doit s'efforcer d'enlever toute barrière à l'amour. Nous allons voir aujourd'hui un homme qui n'a mis aucune barrière dans sa vie et qui a eu un amour comme Dieu le demandait. On va lire. Je crois que c'est ça. Non. C'est lequel? Pas de batterie, j'imagine. Peux-tu me l'avancer d'un, s'il te plaît? On va lire. J'ai séparé le texte en deux. Première lecture, c'est la fin du chapitre 2, du verset 17 au verset 20. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi dans notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. À la fin du chapitre 2, Paul ouvre son cœur. Il exprime ce qu'il ressent aux gens de Thessalonique. Au verset 11, il mentionne qu'il a pris la place d'un père. Il dit au verset 11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père a été pour ses enfants. » Eh bien là, il le vit. Il le vit dans son âme. Lorsqu'il dit qu'il a été séparé d'eux, le mot utilisé, c'est un mot qui est utilisé dans une situation où les parents sont séparés des enfants. C'est un mot assez spécifique. Et il fait par exprès pour prendre ce mot-là. La séparation a été subite, inattendue. Dans Actes 17-10, il dit « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. » Il y a eu du tumulte, il y a eu des pressions, et ils ne voulaient pas que Paul soit attaqué, et ils sont partis de nuit sans considérer l'Assemblée, sans considérer leur voir des gens, ils sont partis en vitesse. Et ça explique un peu la teneur de cette lettre. Paul doit s'expliquer auprès des gens de Thessalonique par amour. Tu ne quittes pas quelqu'un sans dire au revoir. Ce n'était pas dans le but de Paul. Et par amour, il dit, il faut absolument que je vous dise quels sont mes sentiments à votre égard. Mais comment Paul a fait pour développer ce cœur pour ces gens? Comment Paul peut dire à quelque part qu'il est un père pour ces gens-là? Il arrive, c'est un court temps, et il réussit à dire qu'il les aime comme un père. Je sais bien que les premiers instants que j'ai été père, ça n'a pas été facile, je n'ai pas toujours aimé ça. surtout le changeage de couche et ainsi de suite, c'était pas tout à fait. Puis quand ça pleurait toute la nuit, c'était pas tout à fait. C'est ça être père. Mais Paul, en un court temps, a développé ce cœur. Je crois que Paul, comme un honnête serviteur, a voulu servir son maître de la meilleure manière. Mais l'Esprit a guidé, influencé, il a donné le vouloir et le faire. Paul, malgré qu'il soit un grand homme de Dieu, ce n'est pas son œuvre que l'on regarde. On lit les écrits de Paul, mais ce n'est pas l'œuvre de Paul, c'est l'œuvre de Christ, à travers Paul. Et ça fait toute la différence. Paul avait un maître, il obéissait au maître. Et non pas, ce n'était pas Paul qui était en avant, mais c'était Christ et l'Esprit. Un jour, dans l'église d'Antioche, dans Actes 13, 2, l'Esprit dit aux docteurs et aux prophètes, « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. » Paul a été appelé. Mais les compagnons de Paul ont aussi été appelés. On les voit au début, au chapitre 1, au verset 1, lorsqu'il dit « Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique. » Ces deux hommes-là aussi ont été appelés. On voit aussi que Timothée va venir plus loin. On va le mettre la semaine prochaine. L'apôtre Jean aussi a été appelé. Il avait ce même cœur. Lorsqu'il dit « Dans 3 Jean 1 et 4, il dit « L'ancien à Gaïus, le bien-aimé, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ces hommes de Dieu qui sont impliqués dans le ministère ont comme base l'amour. Paul lui-même avait cette même attitude dans l'église de Philippe, dans Philippiens 1, 4 et 1. Il va dire les mêmes mots. Il va dire à peu près les mêmes mots aussi dans l'église de Corinthe, dans 2 Corinthe 7, 4. Plusieurs hommes et femmes à travers les siècles ont démontré ce cœur. Voilà le principal appel de Dieu. Développer un cœur aimant pour les enfants de Dieu. Mais cette relation dans l'Église existe encore. Étant donné que c'est la même œuvre. Ici, Cap de la Madeleine n'est pas l'assemblée de Stéphane ou Adama ou Denis ou Trevor ou David ou peu importe. C'est l'assemblée de Christ, c'est l'œuvre de Christ ici. De cette même manière, nous avons été mis à part pour ce que nous avons été appelés. Comme Paul, nous avons été mis à part pour ce que nous avons été appelés. Chacun dans son rôle différent. Chacun dans ce qu'il est capable de faire, dans ce que l'Esprit le guide à faire. Les anciens, les enseignants, ceux qui nettoient, ceux qui organisent, ceux qui prennent soin, et ainsi de suite. Mais chacun a été appelé. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais dans tous ces appels-là, dans tout ce que Dieu nous appelle d'être, de faire, il y a le tout premier ingrédient dans le service, et c'est l'amour. L'amour paternel, l'amour fraternel, qui se développe dans nos cœurs par le travail de l'Esprit. C'est trop important pour que je ne le répète pas. La base, l'essentiel à tout service, c'est l'amour. Je vais prendre comme exemple l'église d'Éphèse. OK, avance-le d'une coche, s'il te plaît. L'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2 à 5, le Seigneur parle à l'église. Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as retrouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, tu peux rendre service, tu peux être au service intense, tu peux avoir un service magnifique. Il félicite sa persévérance, son travail, il a testé, il a vérifié, il a confronté les gens qui n'étaient pas dans la droiture, il a fait un service parfait. On dit tous là que, hey, wow, c'est une belle église. Mais pourtant, il a un reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Premier amour. Quel est le premier amour? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme. Et aimer son prochain comme soi-même, qui lui est égal. C'est ça le premier amour. Les gens l'ont abandonné. Ils ont abandonné ce premier amour. Et cela est important pour Dieu. Et Dieu le prouve. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ôter le chandelier de sa place. Je vais t'éteindre si tu manques d'amour. Car l'ingrédient principal dans une assemblée, ce n'est pas le service, c'est premièrement l'amour. Et le service vient automatiquement. Le service suit. Et c'est notre cœur qui déborde, qui rend le service. Et non pas, je rends service dans ma tête juste parce que faut que ça se fasse. Il n'y a personne d'autre, je vais le faire. Hein? Il n'y a personne d'autre, non. Il manque de moniteurs à l'école du dimanche. Mais je vais être moniteur, je n'ai pas le choix. Pardon, allons-y. Mais ça roule, ça. Je vais faire une job tout simplement parce que c'est une job. Ce n'est pas ça, la motivation. La motivation, c'est que j'ai à cœur ce que je veux faire. Et j'ai l'amour pour les gens et pour les personnes que je vais servir. Paul a voulu servir, mais l'Esprit lui a montré une voie par excellence. À travers cette voie excellente, Paul voit son espérance, sa joie et sa couronne de gloire à son avènement. Même si son espérance est réellement en Jésus-Christ, lorsqu'il dit dans 1 Timothée 1, c'est Jésus-Christ qui est notre espérance. Ce n'est pas l'assemblée des câbles à Madeleine. Mon espérance est en Jésus-Christ. Peu importe que je serai dans le monde, si un jour Dieu m'appelle ailleurs, mon espérance va rester la même. Mais ce qu'il voit dans l'église de Thessalonique, c'est l'œuvre visible que Christ a créée. Il est l'instrument de Dieu qui lui permet de voir une œuvre éternelle dans le futur. Elle n'est pas éternelle dans le sens de Dieu est éternel, parce qu'elle a un début, elle a un commencement. Donnez-moi autre chose qui a un futur éternel dans ce monde. Une seule chose, à part Dieu lui-même. Cherchez. Y a-t-il quelque chose sur terre qu'on pourrait dire qui va être éternel? Certainement pas les inventions de l'homme. Les inventions de l'homme, ils finissent toutes. Cette bâtisse-là, dans quelques années, si on la laisse aller, elle va être décrépitude. N'importe quoi. Même la création, un jour, va disparaître. Avance d'une coche, s'il te plaît. Apocalypse 21:1 dit, « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Tout ce que l'on peut connaître, tout ce que l'on peut voir, toutes les photographies, les beaux paysages que l'on peut voir, toutes les beautés que Dieu a créées, tout ça, ça va disparaître. Fini. Dans un certain commentaire, ce texte-là disait « Même la tombe devrait changer. » C'est un commentaire. Mais tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit aujourd'hui va disparaître. Sauf une chose, la relation que nous avons avec Christ. La relation que nous avons avec Christ est éternelle. Nous serons pour l'éternité avec lui. Nous sommes déjà aujourd'hui, si vous avez accepté le Seigneur comme votre sauveur personnel, vous êtes déjà aujourd'hui dans l'éternité. Parce que l'éternité commence là et elle finit je ne sais où. La seule œuvre dans tout l'univers qui va résister au temps. En plus d'être une œuvre éternelle, c'est une œuvre où rien n'est oublié. Ça vous est sûrement arrivé de travailler et de faire quelque chose puis que personne n'ait reconnu quoi que ce soit de ce que vous ayez fait. Et ça arrive fréquemment. J'ai encore des images dans ma tête. Et ça nous arrive. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Ce n'est pas le cas avec son œuvre. Jésus a enseigné ses apôtres dans Matthieu 10, 41-42, lorsqu'il disait, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » On ne parle pas de ce verre d'eau-là, là. Okay? Ce n'est pas littéral, mais c'est une belle image qui dit à quelque part que peu importe la petite chose que tu vas faire, la moindre petite douceur, la grâce que tu vas donner à quelqu'un, Dieu la reconnaît. Et il y a une récompense attachée à cela. Ce que l'Esprit me montre, à travers le ministère de Paul et à travers la parole, c'est que ça me réconcilie avec la difficulté. Ça me réconcilie avec le fardeau de la tâche à accomplir. Le travail est parfois difficile, mais il est gratifiant. Il en vaut la peine. Peut-être pas là aujourd'hui, là. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Si j'ai une certaine joie, une certaine gloire à avoir une belle maison, une belle voiture, des beaux vêtements, un bel, mettez le nom que vous voulez. Moi, j'ai des beaux vêtements, mais hey, j'ai payé 3 piastres quand même, ça. Américain. Ça fait peut-être 2000, 2500. Si on a une gloire à avoir ces choses-là, à maintenir ces choses-là et à y mettre du temps épouvantable. Je sais, j'ai été propriétaire longtemps. Imaginez quelle sera la joie d'avoir travaillé un royaume éternel et gratifiant. Imaginez aussi quelle est l'espérance qui réside dans le fait d'être reconnu sans reproche à son retour. Quelle sera la joie de celui qui décide d'investir dans l'éternité? Ça ne se calcule pas. On ne peut pas dire « je vais être tellement joyeux ». C'est impensable la joie qu'on va avoir. C'est la joie d'avoir quelque chose, un bien matériel multiplié par à la puissance de je ne sais plus quelle puissance. Mais c'est certainement la puissance de Christ. On pourrait regarder la deuxième partie. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous et nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez, ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Il est impossible que les sentiments de Paul, s'il est sincère, ne se transforment pas en action. Donc, Paul passe à l'action. Et les Thessaloniciens ont déjà été enseignés à propos des afflictions. Ils savent. Ils veulent dire, comme vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. L'étape suivante est maintenant de le vivre. Ces jeunes sauvés avaient besoin d'être affermis, exhortés. Il avait besoin d'être accompagné pour qu'il soit ramené à la pensée d'éternité. Timothée, ministre, dans le texte original, le terme est plutôt pour qualifier Timothée est fidèle ouvrier avec Dieu. Donc, Timothée, fidèle ouvrier avec Dieu, est un homme mature, un homme connaissant la parole. Un homme qui est capable d'affermir les autres, car il est lui-même ferme. Capable aussi de comprendre la position des Thessaloniciens. Il est capable, comme Paul, de les aimer. Pourquoi Paul craint que les Thessaloniciens, des enfants de Dieu, vacillent dans leur foi? Comment un chrétien peut vaciller dans sa foi? Il a la foi. Comment? Trois choses. Un jeune chrétien peut avoir besoin d'être affirmé, et c'était la situation de la Thessalonique. C'est pour ça qu'un nouveau sauvé doit absolument avoir quelqu'un qui le suit. Quelqu'un qui est avec lui, pour lui montrer les facettes de la foi, les facettes de la vie chrétienne. Mes toutes premières semaines de vie chrétienne, j'ai eu un mentor, j'ai eu quelqu'un. D'ailleurs, je l'ai peut-être parlé, mais à l'âge que j'ai, je suis capable de me répéter. C'est un homme qui m'a montré à prier. C'est un homme qui m'a dit qu'on peut parler à Dieu. Ah, oh, ouais, on peut parler à Dieu, ah, oh, ouais. Et d'ailleurs, c'était un cordonnier, Et puis, sur sa porte d'entrée, c'était écrit « Dieu est vivant, je le sais, j'ai parlé avec lui un matin. » Un jeune chrétien a besoin d'être affirmé. Un jeune chrétien a besoin de Timothée, a besoin de gens comme Paul, comme Sylvain, a besoin d'hommes affirmés. Mais la faiblesse de la foi vient aussi dans le manque de lecture, dans le manque d'études, dans le manque de méditation de la parole. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce que l'on comprend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Autre point, l'absence habituelle aux réunions. Je ne dis pas une fois de temps en temps, c'est pas ça. L'absence habituelle aux réunions qui est une source d'affermissement et d'exhortation. Lorsque je viens ici le dimanche matin ou d'autres du matin et qu'on parle du Seigneur et qu'on chante les cantiques et qu'on et qu'on prie, et qu'on fait toutes sortes de choses qui mettent gloire à Dieu. C'est une source d'affermissement et d'exhortation à mon âme. Ça me fait du bien de savoir, je le savais, mais ça me fait du bien de me faire rappeler ce matin que Jésus est le gardien de mon âme. Dans Hébreux 10, 25, il mentionne de ne pas abandonner l'assemblée et exhortons-nous les uns les autres. Et ce texte-là a été mis dans un contexte de tribulation, dans un contexte où ce que les Hébreux étaient tiraillés, ils étaient, j'ai pas le mot, je cherche le mot, là. Ils étaient vraiment dans des positions difficiles, rejetés par les Juifs, rejetés par le peuple, et ils étaient, c'était difficile. Ne pas abandonner le rassemblement. Ne pas abandonner l'assemblée. Ça devient important. Comment la foi opère? Lorsque je lis dans la parole que je puis tout par celui qui me fortifie, prenons cet exemple. Par la foi, ces mots deviennent plus que des mots. Ils deviennent une vérité. Ils deviennent une présence dans ma vie. C'est des mots qui, à quelque part, ont un impact qui vont faire en sorte que ma vie va changer, qui vont faire en sorte que je vais utiliser ces mots-là pour grandir. Je vais pouvoir faire des choses que je ne faisais pas avant. Et c'est par la foi. Un chrétien a absolument besoin que sa foi soit présente jour après jour. Ce n'est pas la quantité. J'ai pas plus de foi que vous, ou vous n'avez pas plus de foi que moi, mais j'en ai à tous les jours, et je devrais en avoir tous les jours. Je devrais être constant dans la lecture, dans la présence, dans le partage. Ma foi grandit. Pourquoi? Pourquoi que je devrais avoir une foi qui grandit à tous les jours? Parce que dans les afflictions, comme le texte nous dit, les épreuves éprouvent notre foi. Si nous ne sommes pas fermes dans notre foi, notre vie chrétienne chancelle. Nous devenons boiteux. Et nous devenons facilement la proie du tentateur. Et croyez-moi, le diable a l'intelligence pour être efficace à ce niveau-là. Si nous sommes faibles dans notre foi, Satan se réjouit. Yes, une proie facile. Surtout que c'est la méthode que Satan a déjà utilisée. Dans l'Ancien Testament, je prends l'Ancien Testament parce que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est pour nous servir d'exemple. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Satan utilise cette tactique-là. C'est beaucoup plus facile. Satan aime ceux qui sont faibles. Ils tombent facilement et parfois même, ils entraînent d'autres dans leur chute. Et c'est ce que Paul craint lorsqu'il dit « La crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » Le découragement emmène au découragement. Et parfois, lorsque nous sommes faibles dans la foi et que nous voyons quelqu'un découragé, ça peut nous tomber sur nous aussi. Une des tactiques de Satan est d'être le plus discret possible. Se faire oublier et tenter de nous influencer vers le mal sans que cela paraisse. Et nous nous posons des questions parfois en disant « Comment ça se fait? » Et nous ne savons même pas que ça vient de Satan. La parole est claire. Selon Jacques 4, 7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Nous devons et nous pouvons résister au diable. Premièrement, en se soumettant à Dieu, en se soumettant à sa parole, qui est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Donc, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous obéissez à Dieu. C'est très simple. C'est très, vous dire, faites pas offense à notre intelligence. Mais il faut se rappeler de cela. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est Dieu qui le dit et c'est Dieu qui veut qu'on fasse ça et c'est lui. Se soumettre à Dieu. Deuxièmement, dans Éphésiens 6, 16, il dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Cette image que Paul utilise, c'était un bouclier en cuir qui était fait pour éteindre les flèches qui étaient pleines en feu. Quand il arrivait sur le jour, la flèche s'éteignait. Et le bouclier comme tel était traité pour ça. Et ça s'éteignait. Et Paul utilise cette image-là pour dire quelque part le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Ce que Paul nous dit dans ce verset, c'est que nous devons tout faire pour que notre foi grandisse. Il dit « prenez par-dessus tout cela ». « Prenez » est un verbe d'action. Lorsque je prends quelque chose, j'accomplis une action. Ce verbe, cette action-là, a une signification. Ce n'est pas passivement que notre foi va grandir. Que notre foi va s'affermir. Lorsqu'on prend des actions pour que notre foi grandisse, elle va grandir. Si nous ne faisons rien, si nous n'allons pas aux assemblées, si nous ne partageons pas, si nous ne lisons pas notre Bible, pensez pas quelque part que votre foi va s'affermir et grandir. Vous n'allez que vous affaiblir dans votre foi. On ne peut pas fuir le malin. On ne peut pas fuir Satan. Pierre nous le décrit comme un lion rugissant qui rôde, attendant sa proie. Aujourd'hui, autour de nous, Satan se promène, cherche qui il va attaquer. C'est pas grave si c'est une église. Il est quand même autour de nous. Le seul moyen que nous avons contre lui est de le faire fuir. C'est le seul moyen que nous avons contre Satan. Et comme exemple, le meilleur exemple, c'est l'exemple de Christ. Lorsqu'à la fin de son jeûne de 40 jours, lorsqu'il a été attaqué par Satan lui-même, la victoire de Christ a été le résultat à sa soumission à la parole de Dieu et sa foi. Lorsque le Seigneur a donné cette dernière réponse, il dit que Dieu seul pouvait être adoré et servi. Christ avait une foi ferme en ce qu'il disait. Pour lui, cette phrase-là voulait dire « C'est exactement ça que je veux vivre. C'est exactement ça ma vie. Je ne veux adorer que Dieu seul. » Et Satan, désarmé, le laissa. Il le laissa pour revenir peut-être plus tard. Mais Satan n'avait aucune réponse devant cette réponse de foi. Voilà l'importance que la foi doit avoir dans votre vie. Voilà l'importance que la lecture de la parole, que l'assistance aux assemblées, que le partage, que tout ce que vous pouvez mettre. Voilà l'importance de votre vie chrétienne. Vous avez le choix. Vous pouvez dire, je vais arrêter de lire. C'est pas grave, ça. C'est pas grave 2 semaines sans lire. C'est 2 semaines dans ma vie. Mais durant ces 2 semaines-là, vous ne vous affermissez pas. Vous descendez. Vous manquez 2 semaines importantes de votre vie. Parfois, vous lisez, vous dites, ah, je retire rien. Priez. Mais trouvez le moyen d'avancer jour après jour. Conclusion. Qu'est-ce qui nous ralentit dans notre marche, dans la voie de l'excellence que Paul nous donne? Quel est l'exemple de Paul? L'exemple de Paul, de Timothée, de Jean et d'autres ont pris. Qu'est-ce qui nous ralentit? Cette question-là, je vous la pose. Je ne vais certainement pas avoir de réponse. Mais je veux vous en ayez une, vous, par exemple. Qu'est-ce qui me ralentit? Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer comme Dieu me demande d'aimer? Et cette voie par excellence, selon 1 Corinthiens 12, 31 et la suite, 1 Corinthiens 12, 13, que vous devriez lire, qu'est-ce qui m'empêche d'acquérir ces qualités de l'amour dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche? Et soyez francs avec vous-même. Soyez certainement francs avec vous-même. Je ne lis pas assez. J'ai beaucoup de manques. Mon char est plus important que mon Dieu. C'est toutes des choses qui sont là. Et Dieu nous juge de temps en temps en disant ça, c'est pas tout à fait correct. Mais il faut être à l'affût de ce que Dieu nous dit et que notre vie change, que notre vie devienne meilleure. On va prier. Seigneur Dieu, tu es un Dieu grand, bon et fidèle. Que notre vie, Seigneur, ressemble plus à ce que tu nous demandes. Qu'à tous les jours, nous puissions mettre notre vie conforme à ce que tu nous demandes par toutes sortes d'actions. Nous avons une part à faire. Ce n'est pas tous gratuit. Le salut est gratuit. Mais la marche a un coût. Et nous voulons le payer, ce coût, car il aura des répercussions jusque dans l'éternité. Et nous voulons le faire, Seigneur, par amour pour toi, parce que tu nous as aimés le premier et que nous voulons te rendre cet amour honnêtement. Sois avec nous, Seigneur, et bénis-nous dans les semaines qui vont venir pour que nous soyons encore plus près de toi et plus près de ta volonté. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.